avions de lecture. Bouillon de lecture, notre émission estivale autour du vestibule des causes perdues. Nous sommes déjà à notre 7e rendez-vous.
7e.
Et vous connaissez tout de l'histoire de nos personnages qui marchent.
Thomas, vous connaissez tous les personnages.
Voilà, mais pas toute leur histoire. Il y a encore plein de rebondissements.
On est au milieu de l'été.
Très bien. Eh bien, Hervé et Catherine vont nous faire retrouver le retraité, le joueur de guitare, le cow-boy, la brunette maigrichonne.
Qui a pris du poil de la bête.
La bourgeoise fatiguée.
Clotilde.
etc. etc. Je vous laisse la parole.
Et aujourd'hui, c'est Catherine qui va commencer à lire.
Le jour des montagnes. Cet lieu marchait d'un bon pas. Air sur l'Adour était encore tout endormi, le jour pointait à peine. Il fallait le deviner. Comme à son habitude, il marchait seul et vite. Même si, depuis ses ennuis de tendinite, il forçait moins qu'avant. À Lectoure, Marat l'avait entraîné dans l'Institut thermal, où on lui avait enveloppé la cheville de boue. Il ne croyait pas trop à ce genre de remède, mais celui-ci avait fait de l'effet. Depuis Lectoure, il n'avait plus senti de faiblesse dans sa cheville. C'était important de tenir le coup. Il restait près de 1000 bornes. Pas question de s'arrêter en route, pas question. Il n'avait pas le choix. Plus que tout autre ici, il devait arriver à Santiago. Même si c'était dur, même si les jours de pluie, même si la solitude et l'angoisse, même si le froid et les ampoules qui brûlaient. En haut de la rue, très raide, cet lieu se retourna vers la petite ville somnolente. Il aperçut les silhouettes du Breton et de Marat à quelques centaines de mètres. Il avait appris à reconnaître ses compagnons de loin. Leur démarche, la forme de leurs bâtons raides ou biscornus, les bonnets de Marat dans les premières heures de la journée et le soir, le pas hésitant de Clotilde, celui de Robert, décidé et rapide, ou les deux silhouettes d'Enrique et Sophia, Laurel et Hardy à la marche dissipée. Cet lieu trouvait rassurant de pouvoir identifier les marcheurs à la ronde. Il reconnaissait aussi l'intrus au pas inconnu, et alors il se laissait dépasser pour ne pas sentir cette présence nouvelle dans son dos. Pendant la journée, certains chantaient, parlaient, se confiaient, s'émerveillaient des paysages. Lui, son truc, c'était de savoir qui marchait devant lui, derrière lui, de repérer les lignes de fuite et de tracer sa route. Comme il marchait très vite et qu'il n'était pas avenant, personne n'était tenté de lui tenir compagnie, et c'était mieux ainsi. À la sortie de la ville, des chiens stupides aboyèrent à son passage. Il leur montra les dents. Maintenant, le chemin descendait et longeait un lac peuplé de souches torturées. Dans la lumière du levant, une drôle d'atmosphère montait, et cet lieu hâta encore le pas jusqu'à rejoindre une petite route déserte. Il avait semé les autres une fois de plus. Compris bientôt qu'il n'était pas près de les revoir aujourd'hui, plus aucune marque rouge et blanche, plus de petits tas de pierres sur le bord de la route. Il s'était perdu, avait raté une bifurcation et n'était plus sur le chemin. S'arrêta. Le soleil commençait à chauffer, il était seul, pas de quoi se faire du mouron. Il hésita à revenir sur ses pas, continuer jusqu'au prochain hameau, demander sa route, s'orienter grâce au soleil qui à cette heure marquait encore l'est. Oui, mais voilà, cet lieu n'avait pas l'intention de demander sa route à qui que ce soit. Quant à ses histoires de soleil, il n'avait jamais vécu à la campagne de toute sa vie et n'y connaissait rien. Lui, c'était le béton, les tours, les trottoirs, les escaliers du métro, la grande ville. De la rue, tu ne voyais pas le soleil se lever, et la nuit, il n'y avait pas d'étoiles. Il ne faisait jamais vraiment nuit, pas comme ici. Il alluma une cigarette, amère, dans le frais du matin. La fumée dessinait de drôles de danseuses au-dessus de sa tête. Il pensa à Enrique, à son histoire de robe à paillettes. Sur le moment, il avait eu les boules, cet lieu. C'est quoi cette histoire? Il n'aimait pas ça, les mecs qui se déguisent en filles. C'est pas naturel. Il avait regardé Enrique autrement, tenu ses distances. Comme il tenait toujours ses distances, personne ne s'en était aperçu. Tant mieux. Parce qu'après 2-3 jours à bien réfléchir, il s'était dit que cette histoire d'Enrique, elle n'était pas pire que la sienne. Avant, il croyait qu'il était le seul à avoir une sacrée drôle de raison d'être ici sur ce chemin à marcher, même quand il n'en avait pas envie. Mais non. En fait, non. Chacun avait une sorte de secret, une sorte de mystère. Des mystères comme des petits moteurs planqués dans les sacs à dos. Des mystères tristes ou gais ou qui leur faisaient dévaler les pentes, traverser les rivières, se lever chaque matin pour reprendre la route. Comme lui. On parlait, on se racontait des choses, mais ce qu'il y avait au fond de chacun, on n'en savait rien. Que dalle. Regarde Enrique, tout le monde croyait que c'était juste un mec facile qui jouait de la guitare pour épater les filles. Tu parles. On n'en savait rien de lui. On ne savait rien de personne. Après l'histoire d'Enrique, Saint-Cleu s'était senti moins seul. Il tira sur sa cigarette en faisant une grimace. « Bah, mon vieux, moins seul à cause d'une histoire de travelot. » »« T'es con, quoi. C'est pas juste une histoire de travelot, c'est une histoire de secret, de copain. Faut serrer les coudes, tu vois pas ?»« Mais si, évidemment, je fais la brute parce que je suis con. Tout le monde le sait que je suis con. »« Faux. Ici, personne ne le sait. Personne. » « Regarde, ils se soucient de toi, prennent des verres avec toi. T'es le gars sympa, tu poses pas de questions, tout va bien. Tout le reste, c'est déjà loin. Il faut que ça le reste. Allez, en route. » Il rangeait ses clopes et ses allumettes, décidé à faire demi-tour pour retrouver le chemin, quand un chien déboula de nulle part. Un chien mauvais, laid, un vrai démon. Cette lieu n'avait pas de bâton, fit de grands gestes avec son chapeau, cria en vain. Son cœur battait si vite, il crut mourir, partir en courant, se retournant toutes les deux secondes pour vérifier que la bête se tenait à distance. Quand il put enfin ralentir sa course et remettre son chapeau, se dit « Bon, ok, pas question de faire demi-tour. » La petite route était en goudron sépia, bordée de grands fossés, toute droite et légèrement en pente, comme rebondie, si bien qu'il ne voyait pas au-delà, pas d'horizon. À un moment, il croisa une allée forestière qu'il hésita à prendre pour rejoindre le chemin balisé, mais choisit de rester sur la route où le chien l'avait envoyé. Il n'était pas superstitieux ou juste un peu, bien moins que sa pauvre mère, Nini, qui faisait sa vie en fonction de ses petites croyances. Cette lieu s'en était sorti de ça, mais enfin, il avait été élevé par Nini, il en restait forcément des traces. Et puis sur ce chemin, il sentait bien que les choses avaient plus de sens qu'ailleurs. Qu'elle n'arrivait pas vraiment par hasard. Oui, ici, les choses avaient du sens. Il fallait faire attention à elle. Rien à voir avec la grande ville. Là-bas, les choses et les hommes étaient devenus folles et fous. Il fallait juste pas y faire attention. Ici, c'était le contraire. Ce chien, par exemple. En ville, cette lieu se serait dit un chien couillon de plus. Mais sur ce chemin, perdu dans la campagne, seul au milieu de la route, il avait suivi les injonctions de la bête surgie de nulle part. Continue tout droit, sur cette route. On verrait bien pourquoi. Bientôt, il sut pourquoi. Parce qu'au bout de la route, il y avait un cadeau pour lui. Quelque chose de magique. De soudain, dans le lointain, toute bleue, les montagnes. Les Pyrénées. Les montagnes immenses dans l'horizon. Les montagnes fabuleuses. Des semaines qu'il marchait vers elles, et elles étaient là, il pouvait presque les toucher. 4-5 jours de marche et il serait à leurs pieds. Il était seul avec les Pyrénées au bout de ses pas, ne les quittait pas des yeux, se sentait invincible. « Je suis arrivé aux Pyrénées à pied. Merde, c'est pas rien !» Il sentait sa gorge se nouer. « Je suis arrivé à pied aux Pyrénées et je vais les traverser à pied !» Magnétisé, embarqué, il lui semblait toucher du doigt le but de son voyage. Cette lieu n'avait jamais vu les montagnes. Ce soir-là, au refuge de Miramont, la lessive au vent dans la courette, les montagnes en majesté dans le loin et chacun penché au-dessus des pages d'un carnet de voyage pour écrire la beauté surgie au détour du chemin sans crier gare. Un soir de recueillement où l'on parla peu. La petite salle à manger, habitée d'un silence religieux, à peine rompu par les bruits de pas des uns et des autres qui sortaient à tour de rôle vérifier que les Pyrénées étaient toujours là. Silhouette immense dans la brume du soir. En haut du village, Marat se perdait dans le dessin des crêtes, essayait de deviner par où il faudrait passer pour franchir cette masse sombre qui les attendait avec bienveillance. Avec patience, dans 5-6 jours, pas plus. Les Pyrénées. Thank you.
La croisée des chemins. Le jour d'avant, au refuge d'Arou, Enrique et Sofia avaient laissé un message pour Flora. Saudade, a gente mauvre pra espada sem voce de yetunehum. Vamos te esperar em Saint-Jean-Pied-de-Port, a te sextafera. Berros. Mara et Clotilde avaient fait de même pour Robert. Alors, tu nous snobes ? On a besoin d'un homme pour passer les Pyrénées, alors on t'attend. Allez, une, deux, une, deux. Mara et Clotilde. Ce soir-là, halte à Ostaba. Depuis le jour des montagnes, les pèlerins avançaient à grandes enjambées. Il suffisait de se laisser porter, les Pyrénées les attiraient à elles irrésistiblement. Mara collectait les merveilles du chemin. Un citron sauvage à l'odeur de mangue, de la laine de mouton accrochée aux barrières des prés, un petit caillou des montagnes, un bois sculpté. En approchant des Pyrénées, elle avait décidé de balancer la pierre qu'elle transportait dans son sac à dos depuis le puits envelé. Marité avait raison, c'était une pierre stupide qui pèserait trop lourd dans l'ascension des Pyrénées. En la jetant sur le bord du chemin, Mara avait été surprise du poids du gros caillou. Comment avait-elle pu charger sa marche d'un tel poids ? Après, se sentit plus légère. Enfin, son sac à dos plus léger, alors elle s'était autorisée à ramasser des petits trésors. L'autre soir, à Arthez, cette lieu avait sculpté un bout de bois avec son petit couteau. Cette lieu se débrouillait pour avoir toujours quelque chose à faire. Du bois entre les mains occupées à la plonge, à ouvrir une bouteille, à réparer un volet de l'auberge. Tout était bon pour se donner une raison de se taire. Il avait à faire. Le couteau ne payait pas de mine. Tout petit, il ne dépassait même pas de la main de cette lieu. Mais la sculpture était ravissante. On reconnaissait le dessin des Pyrénées et la silhouette d'un bonhomme. Mara avait demandé si elle pouvait le garder. Avec la trappe-rêve de Robert, c'était le deuxième cadeau qu'on lui offrirait. La trappe-rêve. Pensez à le sortir du fond de mon sac. Vu qu'on dort dans les dortoirs, si je l'accroche, peut-être que tout le monde fera de beaux rêves. Ostaba fleurait bon le Pays basque. C'était un endroit spécial. C'était là que les chemins du Puy du Tour et de Vézelay se retrouvaient pour suivre ensemble la même route jusqu'à Compostelle. Ce soir, à l'auberge, il y avait des nouveaux visages. Il y avait aussi un peu de tristesse, parce que certains s'arrêteraient demain à Saint-Jean-Pied-de-Port. Le groupe de Jo, René et Jeannot étaient mélancoliques. Mara essayait de s'imaginer à leur place. Si elle devait quitter le chemin demain, frissonna. Non, ce n'était même pas imaginable. Tout allait mieux ici. De guerre lasse, la bête s'était fait oublier. Mara l'avait semée. Perdue, emprisonnée dans les prières des camélites, dans la chevelure de Marie-Madeleine, égarée dans les faubourgs de Moissac, tombée dans la Garonne. Et la souffrance d'avant, comme la couleur de ses habits de pèlerin, délavée par les jours de soleil et de pluie. Il paraît qu'en Espagne, presque tous les refuges ont une machine à laver. Les mains mousseuses de savon de Marseille, Clotilde démarra l'avant-d'hier. Clotilde soupirait. Dire que chez moi j'ai une lingerie. Une lingerie ? Une belle pièce de la maison où ranger le linge avec des hauts placards. Elle n'était pas fameuse, mais je l'ai repeinte. En rouge. La couleur des colères. Clotilde plissa les yeux. Surtout le rouge est la couleur des marques, des vieux torchons rouges et blancs. Mais tu as peut-être raison. Pour la colère, je l'ai repeinte seule en 2 jours. J'avais envie. Besoin de faire quelque chose. Le souvenir de ses journées de peinture, barbouillées de couleurs, les mains calleuses de tenir les pinceaux, lui faisait battre le cœur. C'était un dimanche, son premier dimanche de femme seule. L'homme était parti le lundi soir. Il était passé prendre quelques affaires et il était parti. C'était ensuivi des jours effondrés. Le jeudi, il avait appelé pour parler aux enfants. À Clotilde, il avait dit pour les papiers, le divorce, laissons-nous le temps, on verra plus tard, je t'embrasse. Après ce « je t'embrasse », Clotilde s'était de nouveau sentie vivante pendant quelques heures, juste quelques heures. Et le dimanche était arrivé. Les enfants étaient partis en Normandie chez des amis, c'était mieux ainsi. Plus encore que les autres jours, le silence de l'appartement lui était pénible. Normalement, à cette heure-ci, on rentrait de la messe, on dressait le couvert pour se régaler de ce que tôt le matin, Clotilde avait acheté au marché. Ce dimanche-là, elle n'était même pas allée au marché. L'idée de cuisiner pour elle seule lui semblait triste et incongrue. Elle avait tenté de s'affairer, trier le courrier, un coup de balai dans le salon, aérer les chambres, jusqu'à ce que ça ne suffise plus à contrer le manque et l'angoisse. Alors, elle s'était souvenue de ces pots de peinture qui patientaient dans la cuisine. Avec les événements de ces dernières semaines, on avait décommandé le peintre. Clotilde avait enfilé un pantalon et une chemise appartenant à l'homme et s'était attelée à la réfection de la lingerie. Une tâche qui lui aurait semblé hors de portée la semaine passée, mais qui ce jour-là se révéla salutaire. 2 jours d'épuisement physique, sa fierté le lundi soir face au travail accompli, face à ses enfants aussi qui avaient quitté une éplorée et retrouvé une mère fière comme Artaban. Sur le moment, elle n'avait pas mesuré ce que représentait cette journée. Aujourd'hui, elle savait, une première montagne franchie, bien avant l'Aubrac et les Pyrénées. Une seconde, elle leva les yeux vers les montagnes. Leur lourde présence lui rappelait un autre après-midi à Condon. Clotilde s'était abritée du soleil à l'ombre d'une petite église. Elle y avait mangé son casse-croûte et tourné les pages d'un livre d'or laissé à la disposition des visiteurs. Avant de repartir dans la lumière gersoise, elle avait recopié une phrase tirée du Nouveau Testament et abandonnée là par un pèlerin de l'hiver passé, une histoire de montagnes baladeuses et de graines de moutarde. Mara se taisait, frottait son petit linge avec application. Elle aussi, parfois, avait des absences et détestait par-dessus tout que l'on vienne l'y chercher. Ne disait rien, attendait que Clotilde lui revienne. Soudain, elles se sentirent saisies par les épaules et une bise claqua sur la joue de Mara qui, les mains dégoulinantes, se retourna d'un coup, surprise et pas très aimable. Elle détestait ce genre d'entrée en matière. Robert !» Sa mauvaise humeur disparut aussitôt. Clotilde se retourna. « Je vous embrasse aussi, Clotilde, pas de jaloux !» Clotilde tendit sa joue en souriant. Elles avaient perdu Robert 12 jours auparavant, alors il avait décidé de prendre un jour de repos à Moissac. Marat gardait les mains en l'air pour ne pas tout tremper. « Je t'amène ma lessive, Marat, t'as l'air bien parti !» Compte là-dessus, oui. On se faisait du souci pour vous, Robert. Ah, mais non, il ne faut pas, tout va bien, tout va très bien même. Et Flora, tu as des nouvelles ? Enrique et Sophia veulent l'attendre à Saint-Jean-Pied-de-Port demain. Robert eut un drôle de sourire. Elle est là, Flora. Elle est avec moi. Quand il s'était arrêté à Moissac, Robert avait une idée derrière la tête. Plusieurs jours qu'il marchait lentement, traînait dans les cafés, se contentait de petites étapes. Mais ça n'avait pas suffi. La fille aux petits pas de poupée chinoise n'avait toujours pas pointé le bout de son nez. Et lui avait bien envie de la revoir, ce nez, et ce qu'il y avait autour aussi, d'ailleurs. L'entendre parler sa drôle de langue qu'il ne comprenait pas, la regarder marcher comme on danse, la regarder installée dans la grande auberge de Moissac. Il avait alors décidé de ne pas bouger avant que Flora n'arrive. Normalement, ça ne se fait pas trop de s'attarder dans les refuges. Alors, pour ne pas causer de problème, Robert avait proposé ses services aux hospitaleros. Il aiderait à l'accueil des pèlerins et en cuisine si besoin est. Si bien que 2 jours plus tard, quand la Brésilienne avait poussé la porte de l'auberge avec délicatesse, comme sur la pointe des pieds, c'est de la table où officiait Robert qu'elle s'était approchée. C'est en face de lui qu'elle s'était assise, à lui qu'elle avait tendu sa crédentiale, comme ça, en souriant, sans rien dire. Robert s'était appliqué, bien soigné le cello, signé, daté. Il avait pris tout son temps, il aimait la sentir près de lui, et elle, elle regardait dans le vague, épuisée et sereine de sa journée de marche. Le lendemain et les jours suivants, ils avaient cheminé ensemble. Le matin, Robert partait seul, marchait jusqu'au premier village où il attendait Flora, puis longue au démarrage, à la terrasse d'un café. Ensuite, il repartait au rythme de Flora. Elle le suivait de quelques pas. Parfois, il l'attendait. Ils étaient côte à côte, se racontaient des choses. Lui, en français, elle, en brésilien. Il lui parlait de Ninon, de ses week-ends, de pêche, de paillé, du quotidien qui lui semblait si loin, si loin. Elle lui disait sa vie dans un petit appartement de Copacabana, tout petit mais à 2 pas de la mer. Elle rêvait de visiter l'Italie, d'aller à Rome, à voir le Vatican. Elle parlait de ses neveux à croquer, de son divorce qui traînait et de son métier à la télévision. Robert ne comprenait pas tout. Et alors ? Elle avait fini par identifier Ninon, la petite fille sur la photo. Des fois, sans s'arrêter de marcher, elle tirait ses cheveux courts en un minuscule chignon serré. Le midi, il s'arrêtait au bord du chemin. Elle cherchait les rayons du soleil pendant que Robert, à l'ombre, préparait leur sandwich. Elle croquait à belles dents, ça faisait plaisir à voir. Surtout que lorsqu'il l'avait quittée, à Saint-Côme, Dolt, elle était un peu palote. Elle se targuait d'apprendre le français, disait « J'adore la cuisine française ». Dès que Robert lui tendait un pauvre sandwich aux rillettes améliorées, certes de cornichons, lui tentait de démentir, mais non, ce n'est pas ça la cuisine française. Enfin. Le soir, en arrivant au refuge, on les prenait pour un couple. Forcément, on leur donnait des lits voisins. Mais Robert, gêné, démentait et s'installait à l'autre bout du dortoir. Ce qui ne les empêchait pas de dîner ensemble, avec d'autres pèlerins parfois. Il l'écoutait bavarder avec des Espagnols, un peu jaloux, mais bon. Quand on se promène avec une nana pareille, il faut s'y attendre. Robert la regardait vivre et ça suffisait à son bonheur. Elle laissait ses sous-vêtements sécher sur son sac à dos, comme tout le monde sur le chemin. Toutes les filles se font à l'idée d'étendre leur soutien-gorge sur leur sac au soleil. On s'habitue à tout. Mais avec Flora, c'était différent. C'était bien simple. Le lendemain de lessive, quand le sac faisait office de corde à linge, Robert évitait de marcher derrière Flora, histoire de ne pas être déconcentré. Depuis quelques jours, il faisait de grandes étapes pour rattraper les copains avant l'Espagne. En fin de journée, Flora chantait souvent pour se donner du cœur à la marche. Ils étaient si différents, si pas programmés pour se rencontrer. Robert le savait. Il attendait le piège, le showstrap. Il attendait qu'on lui reprenne Flora. Pourtant, elle se rapprochait de lui. Alors, certains jours, il se rassurait, se disait qu'il restait plus de 1000 bornes à parcourir. On avait le temps de voir venir. Cette rencontre, c'était improbable, au plus haut point de l'improbabilité même. Peut-être qu'on ne pourrait jamais expliquer ce qui fait que deux personnes si éloignées l'une de l'autre se plaisent à cheminer ensemble. Quelque chose comme la part des anges, un phénomène qu'il avait appris pendant sa formation de cuisinier. On les avait emmenés visiter un cru classé, visite des caves et tout le tintouin. Le vigneron leur avait expliqué la part des anges. C'est ce que les anges sifflent en douce dans les barriques de vin. Certains l'appellent évaporation, mais allez savoir. Depuis, Robert avait retourné l'idée dans tous les sens et en avait conclu que la part des anges, c'est ce qui t'échappe, ce que tu ne comprends pas, que tu ne comprendras jamais. Sa rencontre avec Flora, c'était Itou, la part des anges.
C'est sept lieues qu'il a vu arriver en premier l'étranger. Il était assis sur le pas de la porte, réparait ses souliers blessés. Pas des chaussures de marche, hein, des grolles améliorées, pas bâties pour crapahuter pendant des mois. Sept lieues collaient des pansements à l'intérieur, histoire qu'elles durent quelques jours de plus. La nuit tombée entre chien et loup. Le pèlerin qui s'avançait vers le refuge serait sans doute le dernier de la journée à faire halte à Ostabat. L'auberge n'était pas bien pleine. Sept lieues avait une chambre rien que pour lui. Il ne quittait pas l'homme des yeux, impossible d'identifier sa démarche. Un nouveau venu, qui boitait légèrement. « C'est ici le refuge ?» Sept lieues hocha la tête sans rien dire, et pour bien montrer au nouveau qu'il n'était pas disposé à causer, il se couvrit la tête de son grand chapeau. L'autre était désormais en face de lui. Cet lieu restait concentré sur son ouvrage, il en était au moment le plus délicat de l'opération, retirer le plastique du pansement double face sans se coller les doigts. Son regard glissa sur les chaussures du nouvel arrivant. Des grolles de compétition, montantes, bleues et jaunes, aérodynamiques en diable, mais qui semblaient légères, légères, ne put s'empêcher de jeter un coup d'œil au propriétaire de ces merveilles. Barbe de 3 jours, la quarantaine, beau gosse, mais ridicule, engoncé dans une sorte de gilet moulant en plastique, les mains dans des mitaines du même acabit, une sorte de Robocop du chemin, ce qui ne l'empêchait pas d'avoir l'air complètement à l'ouest. « Vous venez du Puy-en-Velay ?» Cet lieu hocha la tête. « Ça fait longtemps que vous marchez ?»« 30 jours et des bricoles. »« Ah bah comme moi. Il y a du monde ici ?» Sans lever les yeux, cet lieu dit « Bah, soir, il y a tout le monde. » Tout le monde. Non mais il était sourd ou quoi? Oui, tout le monde. Mais c'est qui tout le monde? Bah Clotilde, Mara, Robert, Flora, Enrique et Sophia, quoi. Puis le Breton, la bande à Jeannot, enfin tout le monde, quoi. Le barbu dégrafa la ceinture de son sac, posa son bâton contre le mur, prenait ses aises. Ah effectivement, ça en fait du monde, ça va me changer. Mais ça va le changer de quoi? Cet lieu leva les yeux vers l'inconnu. Bah, « ça va me changer, c'est sûr. Un mois que je marche tout seul, enfin presque. À part un intégriste qui marchait pieds nus et s'est arrêté à Tours, tout seul. Tours » L'inconnu hocha la tête. « Tours, oui, la voie de Tours, on l'appelle ainsi. Mais en fait, c'est une vue de l'esprit. Hein. Elle commence à Paris, la voie de Tours. Paris ?» Cet lieu s'attachait à paraître mal aimable, mais l'autre ne semblait pas s'en offusquer, à croire qu'il n'avait vraiment pas vu un chat depuis un mois. « Paris, ouais, comme vous me voyez, j'arrive de Paris. À pied, hein ?» Cet lieu faisait la moue. L'autre zouzou ne voulait tout de même pas être applaudi, non ? Sophia et Flora apparurent dans l'embrasure de la porte, dirent « Bon dia !» et s'éloignèrent en pouffant vers le village. « Vous les connaissez ?»« Sophia et Flora. » Si je ne m'abuse, elles sont brésiliennes, ces demoiselles. Si tu ne t'abuses, bouffon, va. Sans blague. La réparation des chaussures étant achevée, cet lieu triturait ses lacets pour s'occuper les mains sans donner l'air affairé. Le nouveau s'était assis sur le banc en face de lui, soupirait d'aise. Ah, oh, on a beau dire, bah ça fait du bien la compagnie. Et vous allez jusqu'à Compostelle ? Cet lieu n'avait pas envie de lui parler, mais pas envie de lui répondre. Par la magie des petits esprits, Mara avait dû deviner ça, car à cet instant, il entendit sa voix. « Cet lieu !» Cet lieu se leva d'un bond, prêt à disparaître à l'intérieur du refuge, mais se trouva nez à nez avec Mara. « Ah, t'es là! On prépare l'apéro d'adieu de Jo et René, tu nous ouvres les bouteilles ?» Ah, cet lieu adorait cette fille. Il disparut dans l'entrée, laissant l'inconnu en plan. « Cet lieu, drôle de nom, hein ?» Mara dévisage le nouveau venu. Non mais pour qui il se prend celui-là ? Fronça le nez, haussa les épaules et s'apprêtait à tourner les talons quand l'autre dit « Moi c'est Bruce. Bruce Velden. Enchanté. Ouais, ben je suis Mara. Ah, Mara. Ouais, drôle de nom, je sais. Claudélien en tout cas. » Mara haussa les sourcils. Drôle de bonhomme. L'auberge est presque vide. Il n'y a pas d'hospitalero. « Prenez une chambre et rejoignez-nous pour l'apéro. » Bruce sourit. « Enfin une humaine. »« Merci, Mara. » Mais déjà, la petite humaine toute brune avait disparu. Personne ne remarqua le nouveau venu qui restait timidement sur le pas de la porte. « Bonsoir. »« Salut, Bruce. Alors, qu'est-ce que tu veux boire ?» « Comme toi, Mara !» Cet lieu lui apporta un verre de rouge. « Merci, cet lieu !» On se serra un peu sur le banc et Bruce raconta qu'il arrivait de Paris, qu'il avait marché seul depuis plus d'un mois, à part l'intégriste aux pieds nus, donc. Et qu'il était bien content de vous voir tous. Franchement, il était heureux. Et il avait l'air vraiment content de retrouver la compagnie des hommes. Enfin, la compagnie des pèlerins. De n'être plus le seul homme escargot à la ronde. Il avait enchaîné de grosses étapes pour arriver à Ostabat, où il savait que les trois chemins se croisaient. Si bien qu'après 2 verres, ou pas plus, il s'était endormi, les coudes sur la table. Quand la cuisine se vida, que les uns et les autres se dispersèrent vers leurs occupations du soir, Robert et Enrique l'emmenèrent dans sa chambre. Ils le déposèrent sur son lit et refermèrent la porte en silence. C'est la nuit, couvée par l'ombre des montagnes. Mara va quelques pas sur le chemin de demain qui mène à Larcevaux, puis à Saint-Jean-Pied-de-Port. Les mains dans les poches, les cheveux pris dans son bonnet. Elle marche, les yeux fermés, écoute les murmures du chemin. Dans sa poche, elle touche sa crédentiale, la chose la plus précieuse. Elle en connaît chaque cello, comme des petites pierres blanches sur son chemin. Les pierres blanches du petit poussé. Elle passe le doigt sur le papier, suit les dessins d'encre qu'elle connaît par cœur, les dessins d'une carte au trésor. Certains soirs, Mara se demande quel trésor. La crédentiale est déjà à moitié recouverte de ponts, de symboles étranges, d'étoiles, de petits pèlerins. Quel trésor!
You get the blues. Get a rock and roll, feel it in your bones. Tap on your toes and just get going. Get a rhythm when you get the blues. Little shoe shine more, never gets low down. He's got the dirtiest job in town. Bending low at the people's feet on the windy corner of a dirty street. When I asked him while he shined his shoe, how he keeps from getting the blues, he grinned and he shook his little head about the shoe shine bragging. And he said, you get a rhythm. When you get the blues, get a rhythm. But when you get the blues, get a rock and roll, feel it in your bones. Tap on your toes and just get going. Get a rhythm. When you get the blues.
Seriano Topo, Enrique Rigola. Bon, pour Robert, le Brésilien, c'était pas gagné de pouvoir le parler un jour. Par contre, le sourire de Flora, c'était gagné. Elle marchait à côté de lui, tout à côté de lui, et parfois glissait sa main dans la sienne, l'air de ne pas y toucher, les lèvres en mou. Le même sourire qu'hier soir à la Rasoana. La veille, Robert et Enrique avaient quitté Roncevaux avec les filles, avec dans l'idée de prendre le café dans le premier bar venu. L'air était frais, le ciel menaçait de rester bas, mais peu importait, on était en Espagne, enfin. Compostelle semblait tout proche maintenant, comme s'il suffisait de se laisser glisser en pente douce des Pyrénées vers l'océan. Robert et Enrique se retournaient souvent, regardaient la masse noire des montagnes dans leur dos. Elles fermaient la marche. Plus question de faire demi-tour. Passer les Pyrénées donnait un côté irrémédiable au chemin parcouru. On ne retournerait pas en arrière. Soudain, Enrique s'était arrêté et avait pointé le lointain à l'est de l'horizon. Robert ne voyait rien, fit mine de reprendre le chemin, mais Enrique s'était assis, appuyé contre son sac. « Allons, Roberto !» Alors Robert le vit, le soleil au haut de son lit, déjà orange, pas blanc ni jaune, orange comme les soirs d'été, sauf qu'on était à l'aube et au printemps. Il se levait derrière les montagnes, prenait tout son temps, montait dans le ciel comme des ballons remplis d'hélium aux anniversaires de Ninon. Et le plus beau dans tout ça, c'était Enrique, les yeux en plein dans la lumière, qui souriait. Comme si le soleil levait juste pour lui. D'ailleurs, il lui parlait, disait des choses dans sa langue. Il parlait au soleil, et quand l'astre fut bien haut, installé, confortable et pépère dans le ciel d'Espagne, Enrique se leva d'un bond et applaudit en lançant des « Bravo !» applaudissait en levant les mains comme au théâtre. Et comme il se tournait vers lui, Robert lâcha son bâton de marche et applaudit lui aussi. Après tout, c'était mérité. Vrai qu'il était beau, ce spectacle rien que pour eux deux. Ils se remirent en route. Enrique dansait en marchant, avançait d'un pas, reculait de deux, comme si son sac ne pesait rien. Probablement qu'à ce moment-là, il ne pesait rien. À Espinal, ils avaient commandé des cafés con leche et du jus d'orange, du vrai, comme des bouts de soleil à avaler, un pur bonheur. Là-dessus, Flora et Sofia étaient arrivées et on était repartis tous ensemble jusqu'à l'étape du soir. C'était là-bas, à la Rasoana, que c'était arrivé, que Flora avait accroché ce sourire à ses lèvres et glissé sa main dans celle de Robert. Dans le petit gîte aux minuscules chambres, Enrique et Robert s'étaient installés ensemble, et les filles de leur côté. Ce soir-là, à part Bruce et sept lieux, ils ne connaissaient aucun autre pèlerin. Sept lieux avait passé la soirée sur un banc devant le refuge à bricoler ses chaussures. Le nouveau Bruce, le Parisien que l'on avait rencontré à Ostaba, lui avait tenu compagnie. Il ne s'était pas raconté grand-chose. Bruce avait bien essayé de parler, mais il avait vite compris qu'il ne servait à rien d'insister. Sept lieux était à peine aimable, répondait par des grognements. Depuis le passage des Pyrénées, il était moins taiseux. Quelque chose s'était apaisé, mais quand même, il ne causait pas aux étrangers, et Bruce en était encore un. Le Parisien ne s'était pas formalisé, il était resté à côté de cet lieu. La soirée était douce, moins fraîche que la journée. Le soleil avait réchauffé la campagne et c'est en fin d'après-midi qu'on avait pu ôter les polaires. Vers 7 heures, le bourg s'était réveillé. Les rues désertes avaient soudain été remplies de gamins, de petits vieux brinque-ballant sur leurs cannes, de jeunes gens postés en grappe au coin des rues. La terrasse du café avait été envahie d'amoureux. Jamais on n'aurait pu deviner... au cœur de l'après-midi, que tant de monde vivait à la Rasoana. Comme si le soir connaissait la formule magique pour réveiller le village endormi. Robert avait fait un tour, reniflé l'odeur des cuisines par une fenêtre ouverte, tendu l'oreille au bruit d'un match de foot qui passait à la télé, et acheté une bouteille de vin du coin pour fêter ça. Si on lui avait demandé ce qu'il y avait à fêter, il n'aurait pas pu dire, à part des sensations confuses de lever de soleil, la présence d'Enrique, ses pas de danse, la première journée de marche en Espagne, les villages espagnols, Flora pas loin de lui, jamais loin de lui d'ailleurs, cet lieu qui avait trouvé un copain, les chiens au basque des gamins et le linge aux fenêtres, rien ne manquait, ou presque. Manquait Mara, qui avait décidé de faire étape plus tard, et Clotilde et le Breton, qui s'étaient arrêtés un peu avant. Mais ils n'étaient pas loin, on les reverrait bientôt. Quand Robert était rentré au refuge avec sa bouteille à la main, il avait été accueilli par des acclamations toujours haut perchées et exagérées de Sophia et de Flora. Bruce avait mangé avec eux, il avait posé plein de questions sur cet lieu auxquelles personne n'avait su répondre. Malgré son nom très pompeux, genre marquise de machin del Castillo blablabla, le vin s'était révélé une vraie piquette et avait achevé des pèlerins déjà éprouvés par la traversée des Pyrénées. Il avait fait long feu. Flora était allée se coucher la première, puis elle était revenue dans la cuisine où Sophia et Robert essuyaient la vaisselle. Elle était restée dans la brasure de la porte, appuyée sur le mur, avait bredouillé trois mots à Sophia et Robert n'avait rien compris. Puis, Flora s'était rapprochée de Sophia, elle l'avait embrassée sur la joue en souriant et elle avait pris Robert par la main, l'avait emmenée au premier étage dans la petite chambre qu'elle partageait avec Sophia. Mais Sophia, cette nuit, dormirait ailleurs parce que Flora venait de fermer la porte à clé doucement sans lâcher la main de Robert. Au matin, Robert était resté longtemps, longtemps allongé sans oser bouger. Il faisait encore sombre quand il s'était réveillé et Flora respirait fort contre son épaule. Puis le jour s'était levé, bleu foncé, bleu ciel et le clair du soleil. Les oiseaux sonnaient les matines, en bas des pèlerins s'agitaient dans la cuisine, les premiers prenaient déjà la route et Flora dormait à poings fermés, toute chaude et douce. Il n'était pas question de bouger. Enfin, la belle avait ouvert un œil, juste un, et elle avait souri. Robert s'était senti mieux encore, soulagé, parce qu'un instant il avait eu peur qu'elle change d'avis, qu'elle fasse comme si de rien n'était, se rhabille en vitesse et disparaisse. Mais non, elle avait souri et refermé son œil encore un bon quart d'heure dans les bras de Morphée. Presque tous les pèlerins étaient partis quand Robert se leva enfin. Il descendit dans la cuisine sur la pointe des pieds, mais peine perdue. Enrique et Sophia traînaient, occupés à siroter leur café en se lantant des regards idiots. « Bon, va falloir en passer par là. » Robert entreprit de chauffer de l'eau dans une vieille casserole pendant que ses amis faisaient des blagues où il était question de Roberto et de Flora et qui se finissaient toujours en éclats de rire. À l'autre bout de la table, des pèlerins français râlaient parce qu'ils n'avaient pas eu l'eau chaude à leur douche ce matin et froid dans les chambres cette nuit. Ils tentaient de prendre Robert à partie, lui aussi était français. Il pourrait se plaindre avec eux auprès de l'hospitalero. Robert ne leur répondait même pas, imperméable aux râleries du matin. Il remuait l'eau chaude dans la casserole hors d'âge, ce qui était absolument inutile. Le regard au loin, par la fenêtre, au-delà du pont, des bribes du chemin qu'il apercevait. Les blagues d'Enrique et les plaintes des Français, les bruits du monde lui arrivaient vides de sens. Tout neuf, il était amoureux. Déjà hier, il était amoureux, avant-hier aussi. Avant cette nuit, il était déjà bien ferré par la marcheuse aux petits pieds. Être amoureux, c'était déjà tellement... Des siècles qu'une chose pareille ne lui était pas tombée dessus. C'était bien assez d'en vivre, à profiter. Jamais il n'aurait pensé que davantage lui serait donné. Être près de Flora suffisait. La voir tous les jours, respirer son odeur quand ils étaient assis côte à côte pour le dîner. Alors cette nuit... C'était comme un bonus, l'inimaginable, la surprise qui achève de se retourner le cœur. Les Français râleurs n'en finissaient pas de s'apitoyer sur leur sort. En Espagne, les auberges sont toutes sales, paraît-il. Dire qu'on a un mois de marche dans ces conditions, on va finir par aller à l'hôtel. En plus, les hospitaleros qui ne parlent même pas français. Alors Robert s'entend dire très fort sans même se retourner. « Allez-vous-en, débarrassez-moi le plancher ou taisez-vous !» Stupeur dans la cuisine, même Enrique se tait. Jamais Robert n'a parlé de la sorte, sur ce ton avec cette voix. Mais voilà, ce matin est sacré parmi tous les matins du monde. Et il n'était pas question de laisser ses pieds tendres l'abîmer de leur jérémiade. C'est peut-être la première fois de sa vie que Robert parle sur ce ton, à vrai dire. Il y pensera plus tard parce que sur le moment, il est retourné sur la casserole, l'eau frémit. Le thé de Flora sera bientôt prêt. Les Français se lèvent en faisant du bruit avec leurs bancs. Ils disent « Ah bah ça, en plus on se fait engueuler. Non mais ça c'est la cerise sur le gâteau, hein ?» Et ils disparaissent en claquant la porte. Alors Robert se retourne vers Enrique et dans un sourire immense, il répète « La cerise sur le gâteau ». Enrique se marre, hausse ses épaules, surpris et ravi que les rabat-joie aient décampé. « Cerise ou les gâteaux au Kevetchadis ?» La voix fluette fit sursauter Robert. Comme hier soir, Flora était arrivée sur la pointe des pieds. Elle était encore en pyjama, c'est-à-dire polaire rose fuchsia sur un caleçon noir qui lui donnait un air de ballerine. Elle s'approcha de Robert et lui bécota le cou, se moquant éperdument du monde autour. Robert se laissait faire, répéta « Cerise sur le gâteau, en français on dit ça. Gâteau avec cerise ?» Alors Robert se lança dans des explications tarabiscotées de ce qu'on entendait par « cerise sur le gâteau », voulait s'assurer que Flora comprenait bien que c'était juste une expression, qu'il n'allait pas lui cuire un gâteau à la cerise, surtout qu'elle ne soit pas déçue. Et puis, c'était pas l'époque des cerises. Avec toute son amitié et sa bonne volonté, Enrique aida Robert à traduire, mais même en s'y mettant à deux, il fallut un sacré moment pour qu'Enrique comprenne que cerise sur le gâteau, c'était « Oh, Cerillano Topo !» Il dit à Flora « La cerise sur le gâteau, ah, Cerillano Topo !» Flora sourit et posa une question que Robert ne comprit pas. « Bien sûr !» Alors Enrique se tourna vers Robert et très sérieusement questionna « Flora et cerise ou Flora et gâteau ?»« Les deux, dis-lui quel est les deux. »
Dans tes grands yeux noirs, je me suis perdue. J'attends un regard, le cœur suspendu. Je t'aime tellement fort, toi qui me fais peur. Est-ce un mauvais sort ou la mauvaise heure? Et autour de nous chantent les tziganes. Tout le monde s'en fout, s'enivre au champagne. Dans tes beaux yeux noirs, je sens mon amour et mon désespoir. Chant est sourd, je perds la raison à chercher tes bras brûlant de passion. Viens, embrasse-moi de tes grands yeux noirs, l'étrange lumière à nimber le soir de tous les mystères.
Eh bien, merci Catherine, merci Hervé. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour écouter la suite du Vestibule des causes perdues et retrouver tous ces personnages qui marchent. À la semaine prochaine !
Thank you.